Aujourd'hui, je vous propose de poursuivre notre série de prédications sur la première épître aux Corinthiens. Et nous arrivons à un passage où Paul enchaîne les paraboles. Vous connaissez les paraboles, Jésus a beaucoup utilisé cette technique. Il s'agit d'utiliser une image pour décrire une réalité difficile à comprendre, difficile à appréhender. Et dans le passage que nous allons lire, Paul enchaîne trois paraboles qui permettent, ensemble, à elles trois, de mieux recouvrir, de mieux recouper la réalité dont il veut nous parler, qui est une réalité de croissance. Mais je vous invite à lire le texte, ouvrez vos Bibles dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 3. Un Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 5. Un Corinthiens, chapitre 3, verset 5. Qu'est-ce donc qu'Apollos ? Qu'est-ce donc que Paul ? Des serviteurs par l'entremise desquels vous êtes venus à la foi, selon ce que le Seigneur a accordé à chacun. Moi, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui faisait croître. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante qui importe, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose ne sont qu'un, mais chacun recevra son propre salaire selon son propre travail. Car nous sommes des collaborateurs de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été accordée comme un sage maître d'œuvre, j'ai posé les fondations et quelqu'un d'autre construit dessus. Mais que chacun prenne garde à la façon dont il construit. Personne, en effet, ne peut poser d'autre fondation que celle qui est en place, à savoir Jésus-Christ. Que l'on construit sur ces fondations avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou du chaume, l'œuvre de chacun deviendra manifeste. Car le jour la mettra en évidence. En effet, c'est dans le feu qu'il se révélera, et l'épreuve du feu montrera ce que vaut l'œuvre de chacun. Si l'œuvre que quelqu'un a construite demeure, il recevra un salaire. Si l'œuvre de quelqu'un est brûlée, il en subira la perte. Lui, certes, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint. C'est là ce que vous, vous êtes. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors, je vous ai parlé de trois paraboles, trois images qui s'enchaînent. Si vous avez été attentif à la lecture, il vous en manque une. Il en manque une, c'est celle qui manque, c'est celle que nous avons lue la dernière fois. Hop là. Ouais. Est-ce que tu peux enchaîner ? La dernière fois, on a lu le début du chapitre 3 de 1 Corinthiens et on avait une première parabole, parabole de l'enfant. Une parabole qui parle de la croissance de l'enfant. Paul utilisait l'image de l'enfant et Paul était un parent, une nourrice qui s'occupe de cet enfant et qui lui apporte des aliments, soit solides, soit liquides, selon ce qui est adapté à l'âge de l'enfant. Et nous avons tiré de ce passage une leçon pour la croissance. La croissance de chacun, la croissance de chaque chrétien. Pour grandir, il faut des aliments adaptés au stade où on en est. Mais également, chacun, comme un enfant, est appelé à croître. Nous avons eu la présentation de Mailleul. Mailleul n'est pas né pour rester toute sa vie à cet âge, à cette taille. Dieu l'a créé pour grandir, et il grandira de toute façon. À lui de goûter ce qu'on lui propose, de manger ce qu'on lui propose, pour nourrir cette croissance. Et c'est la leçon que nous avions tirée, nous aussi, à nous, de nous nourrir de ce que nous recevons pour la croissance. C'était la première parabole, la première des trois paraboles qui s'enchaînent, et Paul ajoute à ça deux autres paraboles qui parlent de croissance. La première des deux que nous avons lues, c'est une parabole qui parle de plantes et de champs. Une plante qui pousse. Et pour pousser, une plante, elle a besoin d'être plantée, d'être arrosée. Et c'est ce qu'ont fait les apôtres, les enseignants qui se sont succédés, d'abord Paul, ensuite Apollos, et puis ceux qui ont suivi, qui se succèdent pour apporter leurs bons soins. Mais dans cette parabole, nous voyons apparaître un nouvel acteur, une nouvelle personne qui intervient, et c'est Dieu. En effet, qui a fait du jardinage, qui a essayé de faire pousser quelques plantes dans le but de produire du fruit, sait que ce n'est pas si simple. Parfois, on a beau planter, on a beau arroser, et rien ne pousse, comme mes courges l'année dernière. Les pots sont restés vides, malgré les graines qui étaient dedans et l'eau que j'ai utilisée pour les arroser. Le jardinage nous apprend la modestie. C'est Dieu qui fait pousser, ce ne sont pas des choses qu'on maîtrise. Et Paul, comme Apollos, le savent. Ce ne sont pas eux qui maîtrisent la croissance des chrétiens de l'église de Corinthe. Et pour se décrire, Paul utilise au verset 5 un terme, le terme de serviteur. Ils sont des serviteurs. Ils ne travaillent pas pour eux-mêmes, avec leurs compétences, mais ils travaillent ce que leur maître leur demande, leur maître Dieu. Ils ne cherchent pas à briller, juste à bien faire leur travail, afin de faire plaisir au grand patron et d'obtenir en son temps la récompense. Ils s'effacent devant le maître, et ça, on le voit bien au verset 5. Et je lisais cette semaine un commentaire où on proposait une autre traduction, pas le verset 5, le verset 7, j'ai confondu, où on proposait une autre traduction pour ce verset 7. Celui qui plante et celui qui arrose ne sont rien, mais Dieu qui fait croître, oui, lui est tout. On tire donc de cette parabole une autre leçon pour la croissance. Pour croître, il faut des soins adaptés. Adaptés au désir du maître, de celui qui sait. Celui qui sait ce qu'il faut faire, qui donne les ordres et qui juge à la fin, au moment de la paye. Avant de passer à la troisième parabole, il y a un glissement que fait Paul, une transition au verset 9. Il ne parle plus seulement du chrétien, de la plante, du chrétien individuel, mais il élargit la vision et il parle du champ. Le champ, l'endroit où toutes les plantes sont rassemblées pour croître ensemble. Ce champ, eh bien, c'est l'Église. Et dans ce verset 9, il passe à la fois du chrétien à l'Église, de la plante au champ, et il fait la transition sur sa troisième parabole, sa troisième image, celle du bâtiment. Le bâtiment en construction. Mais arrêtons-nous quand même sur cette histoire de regroupement de chrétiens, d'église. Parce que la croissance individuelle n'est pas une fin en soi. Dieu a envoyé son Fils, Jésus, non pas seulement pour me sauver, moi, Éric Le Guéhennec, mais pour se constituer un peuple avec tous ceux qu'il a sauvés. Pour constituer un corps, le corps du Christ. Un organisme vivant qui est présent dans le monde et qui est l'image de Jésus-Christ aux yeux du monde qui ne peut le voir, mais qui peut voir son Église. Et dans ce tableau, les ouvriers qui travaillent à l'affermissement, à la croissance de cette Église, à la croissance du corps du Christ, eh bien, ils sont appelés collaborateurs de Dieu. C'est le mot que Paul emploie au verset 9, collaborateurs. Ils ont le plaisir d'œuvrer avec lui et que Dieu leur donne ce titre de collaborateur, celui qui travaille avec Dieu. Quel privilège! Donc, après l'enfant, après la plante et le champ, Paul passe au bâtiment, le bâtiment en construction. Ah non, on est trop loin là. On va revenir au bâtiment. Voilà, très bien. Merci beaucoup. Et le bâtiment a besoin de fondations et de matériaux pour se construire. Voilà ce que décrit Paul. Un bâtiment a besoin de fondations et de matériaux pour construire, étage après étage. Les fondations, c'est facile. C'est Jésus-Christ. Je dis c'est facile parce que si vous vous souvenez de ce qu'on a vu au début de l'Épître aux Corinthiens, Paul a bien insisté dessus. Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Crucifié et ressuscité pour donner la vie éternelle à ceux qui mettent leur confiance en lui. Paul a largement creusé ce sillon, répété cette problématique, surtout aux Corinthiens, qui avaient tendance à chercher à s'élever en sagesse et à être plus malin que les autres. Il y a les fondations. Jésus-Christ. Et par-dessus, eh bien, on construit, on bâtit, on croit, puisqu'on parle de croissance. Autre nouveauté dans cette parabole, les apôtres, les enseignants ne sont plus les seuls à travailler, mais Paul parle de chacun. C'est au verset 10, voilà la page d'avant, au verset 10, Paul a posé les fondations, mais quelqu'un d'autre construit dessus et que chacun prenne garde à la façon dont il construit. Chacun. Qui est ce chacun? Bien entendu, l'apôtre Paul en fait partie, les prédicateurs, les enseignants en font partie, mais je crois que ce chacun est plus large encore. Je crois que ce chacun invite les Corinthiens à prendre conscience que tous participent à la construction de l'Église. Et là, je ne parle pas du bâtiment qu'on appelle Église, mais de l'organisme vivant. Ce groupe qui rassemble les chrétiens. Ce groupe dont je parlais tout à l'heure, qui est la présence visible pour le monde de Jésus-Christ parmi eux. Et donc, pour construire, chacun est invité à participer, chacun est invité à amener, comme pour la construction du temple ou avant la mise en place du tabernacle, chacun est amené à apporter ses matériaux pour la construction. Et on a une énumération au verset 12 des matériaux qu'on peut amener, de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou du chaume. Ces matériaux sont classés par ordre d'importance et je ne pense pas qu'il faille y voir une allégorie d'une correspondance entre chaque matériau et quelque chose qu'on peut apporter à son église. Je pense que les matériaux sont plutôt là pour montrer qu'il y a différentes qualités dans ce qu'on peut apporter. Et Paul attire leur attention pour les inviter à bien travailler, à ne pas prendre ça par-dessus la jambe. Parce que tous les travaux, toutes les contributions ne se valent pas. Dieu attend le meilleur. Dieu attend qu'on apporte du soin à sa tâche, dans ce qu'on fait, à son service. Ce n'est pas seulement pour la beauté de la chose, ce n'est pas seulement parce que l'or est plus beau que le foin ou le chaume, c'est aussi pour la solidité. C'est parce que l'or, l'argent, ça résiste au feu. Alors que le bois, le foin, le chaume, lorsque vient le feu, lorsque vient la tempête, il n'en reste pas grand-chose. L'attention à apporter à la façon dont on travaille pour Dieu, ce n'est pas pour se faire plaisir. C'est pour que ça dure, pour que ça résiste. Cette troisième parabole insiste aussi sur une autre chose, l'idée de salaire. Les ouvriers seront payés et rétribués pour leur travail. Dieu viendra juger le travail de chacun. Et ce jugement se fera par l'épreuve du feu. À ce moment-là, chacun constatera ce qui tient ou ce qui ne tient pas. Alors, une précision que Paul apporte, le salaire dont il parle, ce n'est pas le salut. Ce n'est pas la vie éternelle. Le salut, c'est un don gratuit de Dieu. Ce n'est pas le résultat de quelque chose qu'on aurait fait, bien fait ou mal fait, apporter de l'or ou apporter du chaume. Non. Le salut, la vie éternelle, c'est un don de Dieu qu'il donne à ceux qui acceptent le sacrifice de son Fils. Mais ce n'est pas la seule chose. Et Dieu continue à être avec nous et continue à attendre des choses de notre part, continue à regarder ce que nous faisons. Et c'est là qu'intervient ce salaire. Il y a donc dans cette troisième parabole également une leçon pour la croissance. Une leçon qui invite chacun à se mettre au travail avec les matériaux les plus adaptés. Pas seulement les matériaux les plus beaux, mais les matériaux qui durent, les matériaux qui sont les plus solides et donc qui invitent chacun à se mettre au travail selon ce qu'il a de meilleur. Pourquoi leur dit-il cela ? Pourquoi est-ce que Paul s'adresse à eux et les exhorte de cette façon? Vous le savez maintenant, l'église de Corinthe est un peu divisée, avec un esprit de parti où chacun se range derrière tel ou tel camp. Moi, je suis pour Paul, moi, je suis pour Apollos, moi, je suis pour Céphas, moi, je suis pour machin. Se croyant plus malin que les autres, essayant de choisir le bon camp. Et depuis le début de l'épître, Paul n'a de cesse de montrer que cette situation est absurde. Et ici, il en remet une couche. Tous ces gens ne sont que des serviteurs, des petits serviteurs qui ne font rien par eux-mêmes, qui servent le grand maître. Et vous voulez vous réclamer de tel ou tel. Donc il creuse le même sillon, mais en même temps, il fait passer un enseignement, et un enseignement nouveau, puisqu'il leur rappelle qu'ils sont tous serviteurs. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qu'il est utile de rappeler à tous, et certainement aux Corinthiens, qui sont bien ancrés dans leur monde, à savoir comment ils peuvent concilier leur foi avec les exigences de la ville dans laquelle ils se trouvent. Une envie de briller, d'être reconnu dans leur ville également. Il y a besoin de leur rappeler ça. Et Jésus lui-même, si vous vous souvenez bien, avait eu les mêmes difficultés à faire comprendre ça à ses disciples. Les disciples étaient avec lui tout le temps. Et ils ont vu l'attitude de serviteur de Jésus. Et malgré ça, ils avaient entre eux des disputes, des débats pour savoir lequel est le plus grand. Lequel est le plus grand. Et Jésus a dû mettre les choses au point en leur disant ceci en Matthieu 20. Vous savez ce qui se passe dans les nations. Les chefs politiques dominent sur leur peuple et les grands personnages font peser sur eux leur autorité. Qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Si les disciples qui étaient avec Jésus ont eu du mal à le comprendre, ne nous étonnons pas que cette problématique soit encore présente à l'église de Corinthe. Il y a aussi un deuxième rappel dans cette série de paraboles. C'est non seulement ils sont serviteurs, mais ils sont serviteurs du maître. Et il ne faut pas dans ce tableau oublier le maître, oublier Dieu. Et le fait qu'il soit maître implique qu'il est le seul capable de juger. Nous ne sommes pas là pour nous distribuer des bons points les uns aux autres. Mais il faut que nous nous souvenions, et il faut que les Corinthiens se souviennent, qu'ils seront jugés par celui qui sait tout, par celui qui voit derrière les apparences. Et il viendra donner à chacun selon son travail. Parce que Paul le rappelle, le jugement arrive. Il arrive à la fin de toute chose. Il arrive au retour du Christ, il arrive au jugement dernier, mais il arrive avant cela même. Le jugement, il arrive avec les épreuves. Quand le feu attaque le bâtiment, quand les épreuves secouent l'Église, secouent le chrétien, et là, elles permettent de voir ce qui tient ou ce qui ne tient pas. Pour les mettre au travail, Paul rappelle aux Corinthiens que le salut, la vie éternelle, ce n'est pas la fin de leur parcours. C'est un début. Le début d'une vie de serviteur d'une vie au service de Dieu qui leur demandera des comptes sur ce qu'ils ont fait. Ça fait peur ? Ça dépend comment on le voit. Paul le dit, il ne se voit pas comme quelqu'un de craintif, il se voit comme un collaborateur. Et il se réjouit de se savoir utile. Il se réjouit de ce que Dieu lui confie de belles choses, lui confie de responsabilités. Il se réjouit de son rôle et de se savoir utile aux yeux de celui qui sait toutes choses. Et donc Paul les exhorte à découvrir cela, à découvrir que donner ce qu'on a de meilleur, c'est un sujet de joie, et les invite à le faire, donner ce qu'ils ont de meilleur, pour la construction de leur église, de leur communauté, pour l'image de Jésus-Christ là où ils sont présents, dans leur ville, pour le plaisir de leur Dieu. Et pour nous, est-ce que nous sommes concernés ? Oh, la réponse, on la connaît. Un pasteur, ça ne va pas dire qu'on n'est pas concerné par certaines pages de la Bible. Mais je crois, oui, que notre Église a besoin d'entendre de telles choses. Parce que notre Église, notre petite Église, a besoin de serviteurs pour embellir le témoignage de notre Seigneur, pour le fortifier, pour le rendre plus visible, pour le rendre plus pertinent à ce qu'attendent nos contemporains. Elle a besoin de serviteurs, que ce soit des pasteurs, des anciens qui la dirigent, qui la conduisent, que ce soit des prédicateurs, des moniteurs d'école du dimanche, des animateurs de louanges qui l'enseignent, qui l'exhortent, que ce soit des membres du conseil, que ce soit n'importe qui participe à cette organisation dans le but d'accomplir les missions que le Seigneur nous a confiées. Notre Église vit, grandit, se construit et se doit d'être un temple digne de notre Seigneur. Et notre Église a sûrement besoin de découvrir, de redécouvrir que nous servons un maître qui est au-dessus de nous, qui nous dirige, et que nous devons rechercher sa volonté au lieu de faire selon notre idée, au lieu de faire selon ce qui nous semble bon, selon ce qui marche, même si c'est la logique de ce monde. Et nous avons besoin de nous souvenir que notre travail sera évalué comme le travail de chacun. Il sera évalué et pas seulement au jour lointain du jugement dernier, mais peut-être bien plus tôt qu'on ne l'attend. Il sera évalué à la prochaine épreuve. Et ce jour-là, on verra ce qui tient ou pas. Et pour ma part, je prie que ce que je fasse tienne. Ce n'est pas forcément agréable de se faire remonter les bretelles par Corinthiens interposés. Mais je pense que nous pouvons, nous aussi, nous concentrer sur ce verset 9. Sur ce verset 9 où nous sommes appelés à être collaborateurs de Dieu. Parce que nous avons une chance de travailler pour lui, pour un maître que nous aimons et dont nous aimons faire la joie. Et si ce que nous faisons pour lui tient, résiste à l'épreuve, alors nous aurons la joie immense de l'entendre nous dire, comme dans la parabole des talents, « Très bien ». Tu es un bon serviteur en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses. C'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. C'est une véritable joie que de s'entendre dire ça. Que d'entendre le seul parfait nous dire que nous avons bien travaillé, nous dire qu'il est fier de nous, nous dire qu'il prend plaisir à notre travail. Alors saisissons-nous de cette joie, de cette motivation de joie, au lieu de nous enterrer et d'avoir besoin qu'un jour, on nous remonte les bretelles, comme Paul le fait avec les Corinthiens. Saisissons cette invitation. Cette invitation à servir, à nous saisir des matériaux les meilleurs, à donner ce que nous avons de meilleur pour notre Seigneur, avec l'espérance de le réjouir le jour où il viendra faire le bilan. En conclusion, je crois que chacun peut tirer de ce texte quelque chose pour lui. À ceux qui sont investis, responsables dans l'Église ou investis, qui ont à cœur d'y travailler, qui ont à cœur, comme nous le lisions lors d'une précédente prédication, de nous instruire les uns les autres, de nous exhorter les uns les autres à toute occasion, à tous ceux qui viennent bâtir l'Église, soyez heureux. Soyez heureux parce que vous participez à une belle œuvre, une œuvre qui est chère aux yeux de Dieu. Persévérez, mettez tout votre soin afin d'entendre cette récompense. Tu es un bon serviteur. La récompense de la satisfaction du Maître. À ceux qui sont là mais qui hésitent, eh bien, je vous encourage à y aller. À y aller par plaisir, gratuitement, pas par obligation, votre salut n'est pas en jeu. Mais il y a tellement de plaisir à être dans la volonté de Dieu. Venez servir dans l'Église avec cette double motivation, à la fois au jour du jugement dernier, d'entendre le Maître dire « bon serviteur », mais aussi pour aujourd'hui, cette joie de se savoir collaborateur de Dieu. Et puis, si vous n'êtes pas chrétien, peut-être vous ne vous sentez pas concerné par ce texte. Vous avez peut-être découvert aujourd'hui la perspective d'une vie de service qui semble peu attrayante à notre époque. Qui a l'ambition de devenir serviteur aujourd'hui? Détrompez-vous. Être chrétien, c'est bien plus qu'attendre patiemment de toucher, après sa mort, la récompense d'une vie éternelle. Être chrétien, c'est aujourd'hui, et c'est de la joie aujourd'hui. Dès aujourd'hui, la joie d'être dans la volonté de Dieu. Dès aujourd'hui, la joie de venir faire grandir le nombre des collaborateurs du Dieu Très-Haut. Servez l'Éternel avec joie. Voilà ce qui est écrit au psaume 100, verset 2. Voilà la parole avec laquelle j'aimerais laisser chacun d'entre vous ce matin. Servez l'Éternel avec joie. Amen.